Évidemment, je suis plus à l'aise derrière une guitare que... Voilà. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Je prends ma bouteille d'eau parce que je crois que j'en aurais besoin. Voilà, alors on va, comme vous le savez, donc on va parler de l'aumônerie de prison. Donc le... Déjà dans un premier temps, on va balayer un peu, on va dire, une partie technique pour qu'on sache où on met les pieds finalement quand on parle d'aumônerie de prison et qu'on parle surtout en arrière-plan de l'administration pénitentiaire. Parce que là, il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. L'administration pénitentiaire, en fait, dépend du ministère de la Justice et elle a en charge de s'occuper des détenus que la justice a condamnés. Voilà, donc une personne qui est condamnée à une peine de prison va être confiée à l'administration pénitentiaire pour qu'elle prenne soin d'elle, en quelque sorte. Donc il y a deux entités bien différentes. La justice qui est rendue, et après l'administration pénitentiaire qui va prendre en charge ce détenu. Voilà. Donc, par rapport à l'aumônerie, ce que dit la loi, bah, c'est la loi de 1905, hein, qui... Mazatec. La loi de 1905, hein, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Toutes les dépenses liées à l'exercice d'un culte seront supprimées des budgets de l'État, des communes, etc. Donc, plus de rapport entre les deux. Mais il y a un couplet supplémentaire, on va dire, pourront toutefois être inscrits dans les budgets des dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycée, collège, école, hospice, asile et prison. Voilà, parce qu'il se trouve que même si on est en prison, même si on a fait des boulettes, des bêtises, des délits, ça n'empêche pas qu'on a pour autant un cœur pour le Seigneur et qu'on a le droit à ce moment-là de pouvoir en parler avec quelqu'un, avec un ministère du culte ou avec un aumônier ou avec une personne. Donc l'État, dans sa grande mansuétude, dans sa grande laïcité à l'époque, qui n'était pas comme maintenant, a permis que les aumôneries s'installent. Un des précurseurs, on va dire, qui a été installé un peu avant, ça c'est l'histoire qui le dit, c'est Saint-Vincent de Paul, qui a été un précurseur dans ce domaine. Voilà. Qu'est-ce que j'avais remonté comme... Oui, c'est ça. Alors, je passe au suivant. Donc, c'est dans ce cadre que l'aumônerie protestante et les autres, hein, catholiques, je vous dirai après, vous avez dans le détail, hein, catholiques, israélites, musulmans, orthodoxes, protestants, témoins de Jéhovah, bouddhistes et les autres. Voilà un peu le panel, donc des cultes qui sont représentés. Donc vous voyez 377 aumôniers protestants, c'est loin de représenter le nombre de protestants qui peuvent se trouver dans les prisons. On est, je dirais, largement surreprésenté, mais bon, on n'est pas là pour faire non plus du prosélytisme et vendre la foi protestante. On est là pour écouter. Et donc, à ce titre-là, l'administration pénitentiaire, finalement, elle est bien contente, entre guillemets. Enfin, disons que les aumôniers sont des agents régulateurs, apaisants, sur lesquels on peut s'appuyer pour des situations particulières, étant nous en dehors de toute, autorité. Enfin, on est sous une autorité quand même, mais on a quand même notre autonomie. À ce moment-là, on est souvent, on peut être appelé pour une raison ou pour une autre, des cas particuliers de souffrance qu'on va retrouver dans ces établissements. Alors 377 aumôniers protestants, 90 qui perçoivent une vacation, ça c'est pour la partie juridique aussi, mais qui est reversée à l'aumônerie régionale. Pardon ?
Pour vous, pas pour toutes les régions. Vous décidez de fonctionner comme ça, mais pas toutes les régions.
Les catholiques fonctionnent comme ça. Oui, bah, je veux dire, oui, je veux dire. Et donc cet argent qui est regroupé, on va dire, va servir à rembourser des frais de transport, des formations, des publications de livres, qu'on va pouvoir donner, parce que je viens avec une Bible dans une cellule, quelquefois on nous la demande, voilà, on peut la donner. Et ça, c'est, je dirais que c'est quelque chose de quand même précieux de pouvoir le faire. Donc l'aumônier, au final, il est bénévole. Nous, du moins, protestants, catholiques, israélites, je ne sais pas les autres, mais nous, on fonctionne comme ça. Et disons que c'est ce qui nous, l'entité qui nous présente, c'est la Fédération protestante de France, qui est très bien structurée, très bien organisée, qui a des contacts très importants et très soudés, on va dire, avec certaines personnes du ministère de la Justice. Et donc le dialogue existe et ça passe bien, quoi, ça. Donc, à mon avis, on n'est pas à l'aube de supprimer des aumôniers ou je ne sais quoi. Surtout que finalement ça ne coûte pas très cher à l'administration. Ils nous donnent un budget, et puis après on pourrait être 400, 500, ça ne change rien. On sera un peu plus nombreux dans les prisons à aller voir les détenus. Bon, voilà. Oui, je voulais rajouter là-dessus le. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, alors les 90 vacataires, on va dire, ceux qui perçoivent une rémunération, c'est souvent des aumôniers qui sont à l'Église protestante unifiée de France. Hein, du fait que la relation avec la FDF est plus facile. Donc voilà. Mais ça n'a rien de choquant. Et à Épinal, c'est donc Vincent Martin, que vous connaissez pour certains, qui est donc le titulaire, on va dire. Voilà. Alors ces bibles qu'on a distribuées, ça a été une opération faite par la Fédération protestante il y a plusieurs un temps assez long de ça. Et finalement, quand le tirage a été épuisé, l'aumônerie catholique nous a rejoints pour refaire un deuxième tirage. Si bien que, bon, avec l'aumônerie catholique a plus de crédit que nous, plus d'argent que nous, puisqu'ils sont plus nombreux, c'est normal. Et donc, ils ont participé au financement d'une nouvelle réédition de cette Bible qu'on peut distribuer. Une Bible dans la traduction Parole de vie. Donc, avant, on l'appelait Français fondamental, mais c'est pareil. Hein, parce que à un moment, j'en distribuais encore des petites Bibles Gédéon, mais c'est du second. C'est écrit tout petit, et beaucoup de détenus disent mais c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, Parole de vie, ma foi, ça passe bien. C'est pas toujours juste, mais peu importe. L'essentiel étant que la parole soit donnée. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus sur les musulmans? C'est en fait l'administration pénitentiaire, enfin le ministère de la Justice, et pas que lui d'ailleurs, par rapport au culte musulman, il ne sait pas comment faire. Les musulmans, ils sont tous des francs-tireurs quelque part. Je vois notre aumônier musulman, Idriss, très gentil, très bon, sympa et tout, on parle beaucoup avec lui. Mais bon, la vacation, il la garde pour lui. Alors certainement qu'il distribue, qu'il achète des choses pour ses détenus musulmans. Mais globalement, les musulmans, l'administration n'arrive pas à faire avec. Elle n'arrive pas à faire avec. Alors ils ont augmenté les dotations en pensant qu'il y aurait plus d'aumôniers musulmans, parce qu'il en faut. Il n'y en a pas plus. Ils ont plus d'argent pour eux, mais il n'y a pas plus d'aumôniers. Donc voilà, c'est un peu. Ils ne sont pas structurés et je ne sais pas comment ça va finir. Et à la suite de ça, on a aussi, l'administration a aussi, on va dire, mis en forme un diplôme universitaire pour devenir aumônier, justement pour avoir une connaissance, que chaque aumônier ait une connaissance de toutes les religions. Et donc voilà, parce que bon, l'ami Idriss, par exemple, j'ai parlé un jour avec lui, je ne sais plus, comme ça, on parlait à bâton rompu. Pour lui, protestant catholique, bon, le pape, c'était notre pape aussi, quoi, c'était le pape des protestants. Ah, je lui dis, non, quand même, arrête, je vais essayer de t'expliquer, mais finalement, ça ne les intéresse pas, ça. Ça ne les intéresse pas.
Pardon. Aussi plusieurs branches chez les musulmans.
Oui, bah oui, bien sûr. Le fait que les musulmans soient aussi assez divisés, bon, voilà, c'est pas facile, quoi. Voilà, bon, ça, je pense que j'ai pas. Maintenant, si vous avez des questions qui vous viennent comme ça, vous notez, vous me le dites, vous me posez la question, voilà. Donc je dis maintenant, c'est un peu plus difficile pour devenir aumônier, surtout aumônier principal, on va dire, parce qu'il faut ce diplôme universitaire qui va nécessiter un nombre d'heures en faculté. Donc probablement la faculté de Strasbourg aura l'agrément pour le DU qu'elle a mis en place, et donc on pourra suivre ce diplôme universitaire à Strasbourg. Pour partie en ligne, on n'est pas obligé d'être en résidentiel à chaque fois.
On est dans une ère de laïcité, il n'y a pas une aumônerie de laïcité.
Ah ben, dans ce DU, certainement, je n'ai pas vu le détail du programme, mais il y a probablement un couplet sur la laïcité. Et sur ce que peut faire l'aumônier et ce qu'il ne doit pas faire, tout ça est très bien cadré. On en parlera un mot tout à l'heure, voilà, ce qu'on a le droit de faire, pas de ne pas faire.
Non, moi je parlais plus d'une personne, est-ce en que tant les libres que penseurs.
En tant que laïque.
Est-ce que les libres penseurs, par exemple, je te donne un exemple là, je pense que c'est ça que j'ai dit, est-ce que chez les libres penseurs, il y a un représentant libre penseur? C'est ça que tu veux dire?
Alors, dans les 50, peut-être, il y en a, mais en général, ce sont des entités qui sont organisées comme les catholiques, les protestants, Comment je dis ça ? Il n'y a pas si longtemps que ça, les témoins de Jéhovah ne faisaient pas partie des aumôneries. Je ne sais pas comment ils ont manœuvré, c'est Jacques Arrechnik qui m'a expliqué ça, mais ils ont trouvé le moyen de mettre le pied dans la porte pour dire qu'eux aussi, ils étaient une association culturelle. Donc, à un moment, il n'y a pas eu moyen de leur opposer qu'ils n'étaient pas, ou qu'ils étaient une secte. Voilà. On n'a pas pu leur opposer ça. Et donc, ils sont rentrés. Alors, il y en a un, Épinal. Je lui dis bonjour de temps en temps, mais on ne travaille pas avec eux du tout. Et je pense que les catholiques ne sont pas prêts à travailler avec eux non plus, donc c'est très bien comme ça. On travaille un petit peu avec Idriss, avec l'aumônier musulman, sur des thèmes, on va dire, humanistes. Mais c'est pas facile de travailler avec lui. Bien qu'il soit gentil et tout. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On avance. Voilà, ça c'est un peu pour entrer dans le détail. Donc en France, on a 188 établissements pénitentiaires. Répartis sur tout le territoire. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure là, bon, si c'est intéressant, le nombre d'établissements qui sont sur la région de Strasbourg. Donc les maisons d'arrêt au nombre de 91, dont fait partie Épinal. Ce sont. Alors là, on envoie les personnes prévenues en détention provisoire. Après, c'est la garde à vue. Donc quelqu'un qui est en garde à vue. 24 heures, 48 heures, et ensuite inculpé, pas inculpé, en détention provisoire. Donc si le juge décide de la détention provisoire, le chemin, c'est la maison d'arrêt. On trouve donc des condamnés prévenus. Alors ça, c'est les gens qui ont une histoire sur le dos pour laquelle ils sont condamnés, mais ils sont là aussi pour une autre affaire dans laquelle ils sont prévenus, donc ils seront jugés un peu plus tard. Donc il y a... voilà. Et puis des condamnés fermes à des peines inférieures à 2 ans. Donc on va trouver ce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui est condamnée par un juge à entrer en maison d'arrêt, on ne peut pas la refuser. L'administration pénitentiaire ne peut pas refuser l'entrée d'une personne en maison d'arrêt. Donc si le directeur de la maison d'arrêt des pénales dit on est plein, on n'a plus de place, on ne peut pas le savoir. D'où, voilà, bah, je vous expliquerai après, donc on verra. Les établissements pour peine, donc 6 maisons centrales, ça c'est les longues peines. Alors j'ai vu dans l'actualité qu'il y avait 5 maisons centrales pour lesquelles on avait fermé les portes des prisons, qui n'avaient plus un libre circulation. Les centres de détention, alors je connais un peu parce que j'étais stagiaire, on va dire, au début de mon ministère, j'étais stagiaire à Écouves. Donc Écouves, c'est un centre de détention, ancienne caserne, je crois. C'est un peu le truc à l'américaine, mais bon, bref. Et donc là, on va trouver des peines supérieures à 2 ans, donc jusqu'à 20 ans à peu près, qui ont une bonne perspective de réinsertion sociale. Et donc, dans ces centres de détention, les détenus circulent librement, on va dire entre 8h et 17h, 18h. Ils ont une clé pour leur cellule. Donc le matin, le surveillant ouvre toutes les portes, et après il se balade un peu partout en activité, en activité d'aujourd'hui aussi. Enfin voilà, ils ont une liberté assez importante.
Dans les murs.
Pardon ?
Une liberté dans les murs.
Ah, dans les murs, bien sûr. Bien sûr, à l'intérieur de la détention, il n'est pas question qu'ils débordent. Il y a toujours des portes fermées auxquelles il faut demander l'autorisation pour qu'elles soient ouvertes, etc. C'est à l'intérieur de la détention. 11 centres de semi-liberté. Donc là, c'est des détenus qui ont un emploi, qui n'ont pas de domicile, suivant la prison, où ils sont en recherche d'emploi. Et donc, en fonction de ce que le juge d'application des peines a décidé, il réintègre la prison tous les soirs. Donc, ceux-là, ils sont, on va dire, dans la partie extérieure, ils sont en dehors de la détention, mais dans la prison quand même. Et donc, tous les soirs, ils viennent frapper à la porte et ils rentrent à une heure bien précise, ils réintègrent une cellule. Et le matin, ils repartent, etc. Et puis donc. 46 centres pénitentiaires, ce sont des établissements mixtes qu'on a construits dernièrement, finalement c'est arrivé dans les années précédentes, qui combinent des maisons d'arrêt avec un centre de détention ou des maisons d'arrêt avec MC, qu'est-ce que j'ai mis là bref, maison centrale, oui. C'est ça. Donc on peut avoir les deux types. À Nancy, Maxéville, par exemple, qui a remplacé Charles III, on a donc une partie maison d'arrêt et une partie centre de détention. Voilà. Alors pour vous donner une idée de ce que la maison d'arrêt est, c'est là qu'est le problème en fait en France, la surpopulation, elle est dans les maisons d'arrêt. Quand on regarde à Maxéville, à Nancy Maxéville, le centre pénitentiaire, il est à 95% d'occupation, et la maison d'arrêt dans le même bâtiment, elle est à 144% d'occupation. Voilà. Bon, je pense avoir balayé le. Alors, on va aborder quelques chiffres. 70 519 détenus au 1er août. Donc là, vous trouvez ça, si vous allez sur le justice.gouv, vous allez trouver tous les détails. Un rapport mensuel qui fait une cinquantaine de pages, dans lequel il y a des graphiques, des chiffres et tout, et où on vous donne vraiment au détenu près, je dirais, les gens qui sont incarcérés. Excusez-moi, je vais prendre. Donc voilà, vous voyez le problème, 70 519 détenus pour 59 870 places. Et donc ce rapport en question, ce rapport mensuel, qui fait état d'un nombre de matelas au sol de 1527. J'ai connu ça un petit peu à Épinal, dans les cellules de cas qui avaient quelquefois un matelas par terre. Nous on dit matelas par terre, mais c'est matelas au sol pour eux. Ça passe peut-être mieux, je ne sais pas. Donc le taux d'occupation, vous avez vu, 141% globalement. À Épinal, on est pas mal de vie. On est en dessous des 100%. Et effectivement, les cellules sont toutes occupées par deux personnes, quasiment. Alors qu'elles devraient être occupées par une, suivant les normes européennes. La norme européenne dit que on devrait avoir un détenu par cellule. Comme en centre de détention, par exemple. En centre de détention, le détenu est seul dans sa cellule. Voilà. En maison d'arrêt, ils sont toujours quasiment deux. Au moins deux. Il y a quelques cellules de quatre, de trois, de. Enfin bref, c'est. Mais globalement, c'est deux. Quoi. Alors voilà où j'ai trouvé quelque chose qui cloche, mais j'ai pas approfondi. Donc en maison d'arrêt, il y a 33 986 places opérationnelles pour 47 975 détenus. Donc le delta, c'est 14 000. Et on nous dit qu'il y a 1527 matelas au sol. Il faut que je cherche. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je poserai la question à un chef de détention. Pardon ? Oui, il y en a qui sont en suspension peut-être, et qui ne sont pas au sol. Voilà. Bon, bref. J'ai pas compris.
Donc juste peut-être le 0, 15 200.
Alors, il y a en France 4% de femmes détenues. Et donc à Épinal, il y a un quartier femmes, une quinzaine de femmes qui sont là. Il y a quelques condamnés, mais c'est surtout des prévenus. Pourquoi l'attente de jugement ? Pour des affaires, apparemment. Bon, elles sont là depuis pas mal de temps. Donc, c'est des affaires graves, on va dire.
Alors, est-ce qu'il y a des aumôniers femmes ?
Est-ce que.
Des aumôniers femmes pour les femmes ?
Oui, bien sûr, pour les hommes aussi.
Ah, d'accord, donc c'est.
Alors,
c'est
l'aumônier homme ou l'aumônier femme.
On va aller voir.
On va voir les hommes dans leur cellule. Par contre, les femmes, on les voit en dehors de leur cellule. Qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On voit les femmes en dehors de leur cellule. C'est la règle comme ça. Bon, c'est tout.
Ça évite les accusations.
Alors, vous imaginez, 4% de femmes détenues, quand elles sont condamnées, elles vont donc souvent en centre de détention. Et des centres de détention pour femmes, il n'y en a pas des kilos. Et quand il faut aller se rendre à Parloir, il faut faire 200, 300, 400 kilomètres. Voilà, par exemple. Alors, surtout, il ne faut pas se rater ces jours-là quand on est à Parloir, parce que si on arrive, quand la personne qui vient visiter arrive 10 minutes en retard, on lui dit, c'est trop tard, vous partez. Voilà. J'ai mis le. Ça, c'est des coûts, je ne sais plus où j'ai des trucs, mais enfin, vous voyez ce que représente le coût d'un détenu. 80 à 200 euros par jour suivant son régime. Est-ce que coûte un bracelet électronique ? 10 euros par jour, voilà. Alors on pourrait dire, les juges n'ont qu'à juge d'application des peines, ils n'ont qu'à mettre plus de monde sous bracelet, ça nous coûtera moins cher. Mais la justice étant, on va dire, elle a ses règles à elle, et puis même le garde des Sceaux a du mal à réfléchir. Quand il y a une affaire comme à Saint-Étienne-du-Rouvray, où il se trouve qu'un des hommes qui a tué le père Rouvray, le prêtre, il était sous bracelet électronique. Que vont faire les juges à la suite de ça ? Ils vont être un peu frileux, ils vont dire un bracelet, on va laisser tomber pour l'instant. Et on laisse les gens enfermés. Ouais. Alors, j'en arrive. Vous connaissez ce lieu ?
la maison d'arrêt.
C'est la maison d'arrêt, là. Et donc, jusqu'en 2011, j'avais pas mis les pieds dans cette rue. Et vous? Alors, elle est située au rue Jean Villard, pays de Zalaéré, c'est pas le Villard du... Enfin, j'ai cherché ça aussi. Mais ce qui m'a interpellé, quand je suis arrivé là avec, avec Charles Hagen, c'est que c'est une rue en impasse. Voilà, bon, c'est tout. Il y a le parking au bout. Alors vous arrivez dans la rue, vous longez le golfe, là. À un moment, vous tournez à droite. Vous voyez un peu les grillages, les barbelés. Il y a les logements des, on va dire, des cadres de la prison, de la maison d'arrêt. Puis après, les parkings. Donc voilà. Un peu pour l'histoire, donc la maison d'arrêt était en plein centre, ancien couvent, 1695, donc vous voyez quel pouvait être le, l'état de ce bâtiment. Et donc elle a servi de prison depuis 1824. Alors on connaît d'autres prisons. Oui, je ne sais pas du tout, je n'ai pas la notion du temps, on verra, on dirait que c'est trop long.
Non,
ça va.
Quand tu
serais là
pour être
en défense. Bon, on mangera à 1h au lieu de. Oui, ça va. Ça va. Voilà. Bon, on a visité une maison, une prison, un peu dans le style des anciennes prisons. C'est à Clairvaux. Si vous avez l'occasion d'aller à Clairvaux, donc entre 3 et pas très loin de 3, près du lac de. Je sais plus comment
le faire. D'Orient.
Oui, le lac d'Orient, oui.
Forêt.
Et donc, on visite cette prison. Je vous assure que ça vaut le coup. Ça décale. C'est... Voilà. Donc finalement, là, c'était encore une prison, j'irais même Charles III, c'était des prisons presque modernes.
Charles III ?
Pardon ?
C'était pas moderne, hein, Charles III.
Oui, bah non, mais
par rapport à Clairvaux.
Clairvaux, ils étaient dans des cages.
Si vous avez l'occasion de visiter Clairvaux,
dans des cages. Ils étaient dans des cages. Comme au Moyen-Âge.
Puisqu'ils ont fait la prison dans une ancienne abbaye. Et ils ont tout cassé. Bon, bref, c'est sans vie. Alors, je vous. À la maison d'arrêt, juste en face. De la porte d'entrée à l'association Le Villard qui accueille les familles qui viennent pour les parloirs. Bon, la structure, je dis qu'elle est très importante parce que s'il n'y a pas ça, les gens qui viennent au parloir, ils attendent dehors. Quand il fait beau, ça va. Et oui. Donc Le Villard, c'est une assoce laïque hein, qui recherche aussi des volontaires pour accueillir les familles. Voilà. Donc la maison d'arrêt d'Épinal dispose de 240 cellules environ, hein, j'ai pas. Donc 120 cellules sur 3 niveaux. Un quartier femme, un quartier mineur, on cumule à peu près tout à Épinal. Un quartier mineur, un quartier semi-liberté. Le quartier accueil arrivant, il est dans toutes les prisons celui-là. Parce que le détenu qui arrive dans une prison pour la première fois, même si c'est un récidiviste, même si, etc., ou qui change d'établissement, il passe par le quartier arrivant. Et ça, c'est un détail qui a son importance parce que c'est aussi pour nous le point d'entrée. On va voir ces gens, ces détenus à cet endroit-là.
Mais ils ont une différence de... Je sais pas, c'est quoi la différence ?
La différence, c'est qu'ils ont une surveillance un peu plus proche. Un détenu primaire qui arrive en prison, il est largué, perdu, complètement paniqué, et donc il pourrait y avoir peut-être des tentatives de suicide ou des choses comme ça. Donc les arrivants sont un peu surveillés de plus près.
C'est un quartier d'intégration pour s'intégrer.
Intégration pour là, oui, voilà, pour monter après dans les étages, comme on dit. Voilà. Donc je vous ai mis la cellule de base qui fait 12 mètres carrés. 15 C'est grand par rapport aux autres établissements où elles peuvent faire 9 mètres carrés. Pour deux, toujours. Donc, deux lits l'un sur l'autre, hein, et 72 cm. Voilà. Par rapport à nos lits de 240. Hein.
D'accord.
Voilà. Alors voilà, j'ai un peu grossier comme ça rapidement l'occupation possible pour un détenu à la maison d'arrêt de Pilate. Je parle de la maison d'arrêt de Pilate. Il y a donc un atelier assez important qui n'occupe pas beaucoup de monde, mais qui fabrique toujours des capotes de deux chevaux. Voilà. Si vous avez une deux chevaux à restaurer, voilà, vous pouvez trouver preneur d'une capote de deux chevaux. Après, ils ont différents petits boulots de mise en paquet, de petites choses, de trucs comme ça. Vraiment pas grand-chose. Hein. L'occupation possible, c'est la restauration, puisque à Épinal, la restauration est faite sur place. Et ils préparent leur plat sur place. Alors la cantine, c'est pas le restaurant d'entreprise, c'est le... La cantine, c'est en fait un catalogue qui est distribué aux détenus, et dans lequel on va trouver un peu toutes sortes de... Alors que ce soit du café, du tabac, des stylos, du papier à lettres. Et donc, ils vont cantiner, comme on dit, ça c'est un mot qui est très en vogue dans les prisons. Ils cantinent, donc ils cochent un peu ce qu'ils veulent. Bon, ça a un coût, hein, bien sûr. Ça a un coût. Il y en a qui sont occupés, on les appelle les auxiliaires, donc ils font le ménage dans les coursives, des étages, aux différents endroits, dans les bureaux, enfin un peu partout. Mais pour finir, il y a très peu de détenus qui sont occupés à quelque chose, on va dire, qui les sortent de leur cellule. Et donc pour la plus grande majorité, c'est ce que je dis, c'est 20 heures sur 24, dans la cellule, devant la télé, une télé quand même, mais bon. Voilà. Essayez de vous imaginer que vous êtes coincé 20 heures à 2 dans 12 mètres carrés. Voilà. Moi, de temps en temps, j'essaye de me dire qu'est-ce que je ferais. J'arrive pas à m'imaginer. Mais c'est comme ça. Oui. Est-ce que je vous... Oui, on va arrêter là pour l'instant. Voilà, ça tu peux l'arrêter. Là maintenant, on va rentrer plus dans la partie personnelle, on va dire, de l'appel. L'appel qui m'a été lancé, on va dire, c'était en 2011. Et donc, un pasteur que vous connaissez, c'est Charles Hélène, qui vient de temps en temps ici. Je me disais, tiens, peut-être qu'il sera là ce matin. Il pourrait témoigner comme ça. Et il vient par l'intermédiaire de Charles Hagen, qu'on rencontrait régulièrement sur le marché d'Épinal. Bon, on discutait avec lui, etc. Et puis donc, dans l'année 2010, Charles me dit, tiens, au fait, je vais bientôt avoir 75 ans, donc c'est l'âge limite pour être aumônier en prison. C'est un âge qui a été fixé par l'administration pénitentiaire. Et donc, je cherche un remplaçant. Voilà. Donc, tu liras.
Je
peux le dire, oui, voilà. Parce que j'avais pas tout entendu, moi.
Je dis ça. Donc. Alors, de ce temps de partage avec Charles, donc on sait souvent qu'on discute avec ceux qui tiennent la. Comment dire, il y a ceux qui tiennent un stand. Vous savez, la ECB tient un stand, ils sont fidèles. Hein, et ceux qui tiennent un stand sont fidèles, et donc c'est souvent qu'on s'arrête avec eux et qu'on discute. Et puis, Charles était souvent là, maintenant on le voit plus parce qu'il a. Il est malade et il vieillit beaucoup. Nous, on vieillit un peu.
Et il a déménagé.
En plus, il a déménagé. Voilà. Voilà. Et donc, de ce temps de partage, il me reste juste cela. On a beaucoup discuté. J'ai plus que ça dans la tête. Je vais atteindre l'âge limite pour l'aumônerie de prison. J'ai prié pour que Dieu me montre qui pourrait me succéder. Et c'est ton nom qui m'est venu. Étonnant. Alors que nous ne sommes pas membres, et vous savez que c'est parfois important dans certaines églises, nous ne sommes pas membres de cette église, où nous nous rendons quand même de temps en temps. Je ne sais plus la suite de la conversation, j'étais terrorisée, remplie de peur, paniquée. J'avais toutes sortes de pensées angoissantes et des émotions que j'avais du mal de contenir. Peur d'un danger, réel, indéfinissable, peur de l'agression, peur confuse, mais en tout cas envahissante. J'ai encore le cœur qui tape à l'époque tellement ça m'avait... Voilà, ça m'avait fait... J'ai eu très peur. Donc, et Charles conclut, il reste quelques mois encore, hein, tu as le temps de réfléchir. Et je me suis dit, ouf, on a le temps de réfléchir, ça veut dire qu'on ne va peut-être pas aller par là. Et donc, les semaines passent, Jean-Marie n'en parle plus. Moi, j'oublie peu à peu, pensant que le couvercle est remis sur la question. Et pendant ce temps, donc j'en parlerai après, pendant tout ce temps-là, donc, moi, ça m'a permis de m'apaiser et l'esprit a commencé à me travailler et à me préparer à la suite de ce qu'on va vivre.
Donc ça, c'était le premier appel, le bon fort quand même, hein, de la part d'un pasteur, que, oui, c'est vrai, avec lequel on a de bonnes relations. Mais on n'était pas dans son église et tout, mais pour autant, ben voilà. Un autre signe qui est arrivé dans le même temps, c'est Thomas, notre fils, qui habite à Lyon, là-bas. Et donc, le pasteur de son église, qui est aumônier, lui a demandé un jour de venir jouer de la guitare à la maison au centre de détention de Lyon-Corbas. Voilà, tiens. Un autre signe encore, dans ce moment-là, il y avait Agnès Schaeffer qui était très impliquée dans le ministère d'aumônerie. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet. Et puis, dans le même temps, également, on va dire que la fédération protestante essayait de recruter. Et donc Arnaud Stolz, qui était l'aumônier régional à l'époque, est venu faire un exposé de l'aumônerie à Épinal, à l'église réformée à Épinal. Voilà, alors bon, elle parlait de sataniser, peur, etc. Bon, je peux vous dire que je n'étais pas très rassuré non plus. Hein. Voilà, donc moi je vais m'en parquer, est-ce que j'accepte Bref. J'ai accepté. Voilà, donc à partir de là, on ne devient pas aumônier comme ça. Bien sûr, il y a une lettre de motivation, on nous demande quels sont nos... Oui, pourquoi on est attiré vers ça. On nous demande un CV. Ça tombait bien, il y avait pas mal de choses sur le CV, avec la guitare, la relation d'aide, tout un tas de choses comme ça, qui font que finalement, bon, ça... Même si on n'en fait pas une vocation, ça sert quand même, quoi. Par certains moments, ça dépanne, quoi. Ça sert. Et puis, un entretien devant une dizaine de personnes, souvent des aumôniers, qui deviennent des collègues après, mais ça c'est une autre histoire, parce qu'au début, la commission, bah, on ne connaît personne, et puis on est un peu... On s'est petit souillé, hein, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va être interrogé, qu'est-ce qu'on va nous demander. Bref, ça s'est bien passé et donc j'ai été retenu pour être stagiaire. Et comme stagiaire, j'ai fait mes premiers pas à Écrouves, donc centre de détention d'Écrouves, où la première chose impressionnante, c'est de voir ces grilles qui sont devant vous. 6-8 mètres de haut, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Et il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Bref. Et ça s'ouvre, et ça claque, et ce... Bon, voilà. Et ça, c'est très impressionnant. Mmh. Et puis après, bon, comme c'est un centre de détention, les détenus, il y en a partout, ça groupe de partout, dans des cours, ils jouent à la pétanque. Bref, c'est perturbant quand même. Hein, voilà. Et dans le même temps, Charles avait fait, on va dire, il était bien introduit quand même, il était bien connu. Il a fait des démarches pour que je puisse faire mes premiers pas à la maison d'arrêt d'Épinal avec lui. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la rue Jean-Villard à Épinal, je ne connaissais pas. Donc après avoir franchi les 8 portes, à Épinal, il y a 8 portes, qui amènent à l'entrée de la détention, là on va rencontrer les surveillants. Surveillance, chef de détention, etc. Tout personnel, on va dire, encadrement. Avec lequel, bon, j'ai vite compris qu'il était important d'avoir un très bon contact. Parce que finalement, après un bon contact, un bon premier contact, il y a toujours possibilité après de parler d'autre chose. Pourquoi pas de la foi, parce qu'ils savent très bien qui on est, pour qui on vient, avec qui on vient, je dirais. Et voilà. Autre chose aussi par rapport à ces surveillants, surtout dans les étages, quand on est dans les étages, parce que il y a donc les trois étages, et au milieu, il y a la guérite, dans laquelle, le bureau dans lequel se trouve le surveillant. Et il n'arrête pas de cavaler d'un côté à l'autre, aller chercher les parloirs, aller chercher ceux qui vont en cours, ceux qui vont à la douche, ceux qui vont au téléphone. Donc ils font, je dirais, des kilomètres. Dans 40 mètres de couloir, ils font des kilomètres. Ils n'arrêtent pas de marcher. Bon, ils ont l'habitude, c'est sûr. Mais il y a quelquefois des moments où la tension est un peu plus libre. Et donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je me mets en retrait et je dis bon, j'en reviendrai. Quand la situation sera plus calme, on repose avec le surveillant, on essaye d'échanger, de blaguer un peu, voilà, puis après, hein, ça glisse et il peut m'emmener. Éventuellement, ce qui arrive aussi, c'est qu'un surveillant, bon, ils sont pas tous ceux, je dirais, inculturés, il y en a qui ont une foi aussi, hein, je pense, je ne sais pas laquelle exactement. Ils peuvent nous amener vers. Il va bien, vous feriez bien d'aller voir un tel là. Il va pas bien. Voilà, donc il y a cette relation qui se crée avec eux. Ils nous amènent vers celui qui a besoin d'aide, besoin de parler, besoin de. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure, le premier contact qu'on a avec un détenu, c'est aux arrivants. Et donc, comment ça se passe à Épinal? Le surveillant ouvre la porte et dit voilà, il annonce l'aumônier. Et là, bon, j'ai fait une petite paraphrase, je me tiens à la porte. Mais je ne rentre pas. Je n'ai pas l'autorisation pour rentrer, tout simplement. Parce que ils ont déjà tout perdu. Ils ont un petit chez eux, on va dire, un lieu privatif. Et donc, il est normal que je leur demande l'autorisation de rentrer. Et à ce moment-là, dans les cellules arrivants, il y a des cellules de 3 et 4 des fois, ou 2 ou 1, enfin bref. Et quand c'est dans les cellules de 3 ou 4, il y en a toujours un qui dit « Ah bah oui, l'aumônier, Et donc il s'armue un peu là-dedans, il cherche une chaîne, et là je sais que je suis invité à rentrer et à pouvoir rentrer en discussion avec eux. Enfin, quand je dis rentrer en discussion, c'est surtout les écouter. Et donc voilà. Alors il y a aussi quelque chose qui nous aide bien, qui est bien connu dans le milieu carcéral, c'est la bonne semence. Alors j'ai toujours dans mon sac suffisamment de bonnes semences pour leur donner. Et là ils sont, bon je ne sais pas s'ils le lisent, peu importe, hein, c'est pas mon problème entre guillemets. Quelquefois on en parle dans les étages après. Mais c'est le calendrier sur lequel ils peuvent compter leurs jours. Bon, voilà. C'est pas grand chose, même s'ils lisent pas, ça leur sert de calendrier de voir quelle date ils sont. Parce que le temps, la détention, le temps est long. Le temps est long. Voilà. Et donc voilà, bah c'est là qu'on fait la première rencontre avec le ou les détenus qu'on va peut-être pouvoir rencontrer à nouveau dans les étages. Donc on a fait cette première rencontre, c'est pas la rencontre décisive, mais c'est le premier lien qui est créé. Et donc si effectivement ça accroche, on va aller les voir dans les étages et on pourra se placer différemment, mais toujours avec cette position de se mettre à leur niveau. Voilà, on n'est pas supérieur, il faut leur dire que non, on est là pour parler avec eux, on n'est pas supérieur, etc. Voilà. Et donc après, ce que je dis, c'est que plutôt que de savoir ce qu'il a fait, ça je ne leur demande jamais, je préfère m'intéresser à la personne qui elle est, sa souffrance, ce qu'elle peut exprimer, des détenus qui arrivent des fois, qui ont laissé dehors la femme, les enfants, une maman handicapée, etc. Et j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, un détenu récidiviste, qui bien aguerri dans ce qu'il faisait, hein, dans, trafic carte bancaire, enfin bref, on m'a un peu expliqué ça, mais son problème c'était pas ça, c'est qu'il était là et qu'il avait laissé sa maman handicapée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Je sais pas quoi faire, il était paniqué. Comme quoi, on a beau être le... Mmh. Voilà, il y a des attaches, des choses comme ça qui font... Et ça, c'est ça qu'il faut recevoir, en fait. Mmh. C'est ça qu'il faut recevoir. Essayer de tempérer, de... voilà. C'est... Et de toute façon, ce que dit le détenu, c'est sa vérité. Je n'ai pas à remettre en cause ce qu'il me dit. C'est sa vérité. À l'instant où il le dit, avec souvent des émotions fortes, je me suis vu tirer les mouchoirs de ma poche pour les donner à un détenu. Bon, ça commençait à couler partout, les yeux, le nez. Voilà. Malgré ce qu'il avait fait, mais je ne sais pas. Et il ne demande pas forcément un acquiescement à sa situation. Il ne demande pas qu'on prenne fait et cause pour lui. C'est pas notre but, il demande simplement à être entendu dans sa souffrance du moment. Voilà, je vous citais le cas de ce gars-là qui, à un moment, a commencé à fondre en larmes. Bref, donc j'avais quelque chose à faire, c'est lui donner un mouchoir. J'en avais tendu. Voilà. Là, si vous voulez, je vais partir de là. Des gens que j'ai rencontrés. Avec lesquels j'ai fait un petit bout de chemin, on va dire. Bon, j'ai changé les prénoms, mais bon, ça change pas grand-chose. Lionel, c'est une personne que j'ai connue comme artisan. On l'a connu comme artisan, il est venu travailler chez nous. Donc, quelqu'un de normal, je dirais, qui avait un travail. Pas très futile, on va dire, mais bon, on est. Voilà. Mais il travaillait bien, voilà. Un jour, il est convoqué, alors, un peu après. Il est convoqué au tribunal pour une émission de chèques sans provision qui aurait été faite par sa compagne qui s'est taillée. Voilà. Mais c'était son chéquier à lui, et donc voilà. C'est lui qui est convoqué au tribunal pour un jugement. Et en se rendant au tribunal, pas de peau, il tombe en bas. Je ne sais pas s'il a prévenu, comment il a pu faire. Toujours est-il qu'il a ramassé, je crois, ça doit être 6 mois de prison.
Voilà. Pour non-présentation.
Pour non-présentation, il n'est pas venu, alors est-ce qu'il s'est excusé ou pas, j'en sais rien. Mais bon, moi je me mets à la place de n'importe qui. La justice, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et on peut se faire laminer en rien de temps. Parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas suivi la bonne procédure, on n'a pas été chercher un avocat ou j'en sais rien. Bref, on est totalement ignorant du fonctionnement de la justice. Et donc on est tous susceptible à un moment de se faire, prendre la main dans le pot de confiture alors qu'on n'a rien fait. Ouais. Voilà. Alors, un autre détenu, je l'ai appelé Jean-Michel. Un jour, je reçois un mail, ça doit être un pasteur qui m'avait envoyé un mail, qui me signale l'arrivée à la maison d'arrêt d'Épinal de ce Jean-Michel. Alors, si c'est un pasteur qui me l'envoie, c'est qu'il y a un début de démarche vers le Seigneur, on va dire. Et ce pasteur me donne les faits pour lesquels cet homme est incarcéré. Bon, je peux vous dire que c'est du lourd, compte tenu du contexte de l'époque. Et donc la décision d'incarcérer était, on va dire, normale. Il y avait, on va dire, pour les juges, danger pour la société, donc on le met à part. Et donc à mon arrivée à la maison de l'arrêt, quand j'avais eu ce message, là, je pensais demander à voir cet homme-là. Et puis finalement, il y a un surveillant ou un chef de détention qui me dit « Tiens, au fait, voilà, j'ai un petit bout de papier pour vous, là. Faudrait que vous alliez voir cet homme-là. » Et donc, c'était lui. Bon, voilà. Et donc, il était placé à l'isolement. Alors ça, c'est encore quelque chose dont j'ai pas parlé. Dans toutes les maisons, dans toutes les prisons, dans tous les établissements pénitentiaires, il y a une partie isolement. Qu'on appelle le quartier isolement, une partie disciplinaire. On verra. Et donc voilà, cet homme est donc à l'isolement. Les seuls contacts qu'il peut avoir, c'est avec son avocat et avec l'aumônier. Pas de choix, hein, c'est bien. C'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs. Personne ne peut voir, que ce soit disciplinaire ou isolement, c'est souvent l'aumônier qui est le seul à pouvoir aller. Encore que si le surveillant ne nous autorise pas, on ne va pas monter en dire oui, si, j'ai le droit, etc. Non, bon, c'est tout. On attend un jour meilleur et puis après on va voir la personne. Alors quand je dis qu'il n'a aucun contact, en plus, il est dans sa cellule, il est seul quand même. Enfin, il est seul forcément puisqu'il a l'isolement. Et il a droit à 1 heure de promenade par jour. Mais dans une cage, on va dire, on voit pas, il n'y a pas de vue à l'extérieur. Il y a une vue sur le ciel, mais avec un grillage. Voilà, c'est très agréable. Je vous laisse imaginer. Voilà. Donc le résultat, c'est la cellule. Et donc, quand j'ai rencontré cet homme-là, on a pu, pendant tout le temps d'isolement, il a été au bon moment, une fois par semaine, enfin, j'avais pris ma vie, hein, puisqu'il y avait, les ponts étaient, disons que la porte était ouverte, et on a pu apprendre la Bible, lire la Bible, expliquer, commenter, voir comment c'était, et prier. Et donc ça a duré. Donc il a été à l'isolement peut-être 1 ou 2 ans. Ensuite il est monté dans les étages, donc en détention normale on va dire. Et bon, je l'ai vu pendant tout ce temps là quoi. Et cet homme là je le vois, je l'ai encore au téléphone pour l'instant, de temps en temps. Puis j'irai le voir certainement prochainement.
Dans le passage je peux quand même dire qu'il s'est converti.
Oui,
il a vraiment donné sa vie.
Oui, il a cheminé fortement.
Témoigner en prison, il l'a aidé à trouver d'autres personnes, à voir celui-là, etc. Il a fait un travail phénoménal.
Bon. Ce qui l'a conduit à ça, c'est qu'il a fini par reconnaître quand il était dans ses affaires plutôt scabreuses, qu'il était paniqué. Il avait eu un moment de panique par ce qu'il faisait. Et donc, il ne savait pas quoi faire pour s'en sortir. Il était coincé. Il n'était pas tout seul, hein. Il était dans un engrenage, il dit « qu'est-ce que je vais faire, je suis foutu ». Et là est arrivé le coup près de la détention. Et là, quelque part, peu de temps après, il a dit bah, « merci Seigneur ». Ça a été le coup d'arrêt pour que je puisse repartir. Et donc à son procès, il y a à peu près 1 an, 2 ans, les faits qui lui étaient reprochés lui ont été mis devant le nez. Et là, il m'a dit après à son procès, j'étais pas fier. J'étais pas fier. J'avais honte de ce que j'avais fait. Donc il a vraiment cheminé de ce côté-là, quoi. Et toujours est-il qu'il est devenu un disciple, je pourrais dire, et qu'il annonçait à tous les gens de l'étage hein, qui il était, qui était Jésus. De temps en temps, il nous amenait quelqu'un pour le culte, enfin voilà. Et donc il a fait une déclaration une fois, voilà. Un autre cas de rencontre, un récidiviste, on va dire, mais bon, bien gentil aussi finalement, qui revenait régulièrement, des vols de poules, des prises de tête avec des gendarmes, enfin bref. Bon, une fois, il m'a dit, ouais, j'avais volé 2 poules parce que j'avais faim. Bon, j'avais faim. Ah, et puis les gendarmes ils sont venus à la maison. Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça fait des 2 poules? Ben, j'ai dit, il y en a encore une, mais l'autre, j'ai mangé parce que j'avais faim. Voilà. Voilà. Et puis avec lui, ben, on était dans la parole aussi. Donc, bon, je ne sais pas quel était son cheminement, mais on était dans la parole. Et un jour, on a lu le psaume 139. Voilà. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi, où fuir loin de ton regard? Et là, je lui ai demandé ce que ça provoquait comme. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce psaume? Il m'a dit, ça me fout les boules. Il avait conscience que ses actions, tout ça, c'était. Et donc, à partir de là, on a pu reprendre le texte et permettre de replacer ce que voulait dire ce texte pour lui aussi. Et voilà, donc c'est ça. Et puis, oui, un autre déchu, récidiviste aussi, alors, voilà, qui a eu, bon, il n'a pas eu de bol, et la dernière fois qu'il est venu à la maison d'arrêt, il a dit « Je veux voir personne, je veux voir que l'aumônier !» Bon, ben, c'est tout. Alors finalement, ben, je suis allé le voir, pour, puis les surveillants étaient bien contents que je le voie, parce que ça le faisait baisser en température. Voilà, et donc, dans ce, j'ai un petit carnet pour noter les noms et les numéros de cellules, etc. Donc, depuis le début, j'ai pas mal de noms qui s'ajoutent, je balaye de temps en temps, puis je pense et je prie de vous. Alors, t'es là, je sais pas. Ah, il est midi. Voilà, et ben.